Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateur, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, Georginie de l'Association pour la protection des automobilistes nous a parlé entre autres des garanties prolongées que les concessionnaires automobiles nous vendent. Ce qu'on sait moins, c'est que la meilleure garantie sur le marché, pour n'importe quel bien qu'on achète d'ailleurs, n'est pas sur le marché. Elle s'appelle la garantie légale, elle fait partie de la loi, ce qui veut dire que tous les fabricants et commerçants doivent la respecter. Ça vous intéresse de savoir que le frigo à 1000 et quelques dollars que vous avez acheté est garanti par la loi pas mal plus longtemps que le 1 an de garantie du fabricant? J'en parle avec Sylvie Bellefeuille, avocate chez Option Consommateur. Bonjour Sylvie.
Bonjour Pierre.
On va se parler de garantie aujourd'hui. C'est drôle parce qu'on parlait de voiture dans le dernier balado avec Georginie de l'Association de la protection des automobilistes. Puis évidemment, garantie, on reste un petit peu dans le sujet. Mais quand on achète un électroménager, un appareil électronique, bon, habituellement, on a un an de garantie du fabricant. Les voitures, bon, généralement, ça va être 3 ans, 60 000. Il y a eu des exemples à 5 ans, 100 000 km. Il y a une chose importante à dire, hein, je pense, c'est pas gratuit, là. Il y a quelque chose de compris dans le prix de vente pour... La garantie nous est vendue dans le prix de vente, dans le fond.
Oui, c'est sûr. Puis il faut savoir aussi que la garantie du fabricant, qui est celle que tu mentionnes, ce n'est pas la seule garantie qui existe non plus. Il y en a d'autres dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a effectivement la garantie du fabricant, qui est souvent une garantie qui est limitée dans le temps. Il y en a d'autres qui peuvent nous être vendues à grands frais. Puis il y a aussi une garantie qui est prévue dans la loi.
Mais la garantie du fabricant... Souvent, là, il y a un petit papier là, à l'intérieur de la boîte de l'électro-ménager ou de l'appareil électronique et on nous incite à remplir un petit papier. Je ne me rappelle pas si j'ai vu pour activer votre garantie, remplissez ce papier-là, mais on nous incite à le remplir. Est-ce qu'il faut absolument le remplir pour bénéficier de la garantie d'un an?
Non, absolument pas. La loi nous dit que la garantie du fabricant est offerte même si on n'a pas rempli ce petit papier-là. Il faut savoir que ce papier-là, dans le fond, souvent, oui, on va nous dire que c'est pour activer la garantie, mais souvent aussi, le fabricant va essayer d'aller un petit peu à la pêche pour essayer de voir c'est quoi nos prochaines intentions d'achat. Donc, est-ce qu'on a l'intention, on a acheté un frigo, mais est-ce qu'on a aussi l'intention de s'acheter une cuisinière ou une laveuse sécheuse? Donc, c'est un peu une façon aussi peut-être de nous faire des offres un petit peu plus tard.
En langage simple, ça s'appelle une opération de marketing.
Exactement.
Si on a un problème, parce que je veux qu'on règle ça, l'histoire de la garantie du fabricant, là. Si on a un problème, évidemment, à l'intérieur de la garantie d'un an du fabricant, on s'adresse au fabricant. On peut appeler le commerçant qui nous a vendu. Il va nous référer au fabricant, mais ce n'est pas illégal de nous référer au fabricant. Je présume qu'il faut aller voir le fabricant.
Bien, c'est souvent la garantie qui est peut-être la plus facile, justement parce qu'elle est comprise dans le délai là, de l'achat qu'on a. Mais ça n'empêche pas aussi, puis on va le voir tout à l'heure, que le commerçant est aussi responsable sous un autre type de garantie.
Parce que c'est avec lui... avec lui, on a le contrat. En tout cas, c'est sûr qu'on a un contrat avec le commerçant qui nous a vendu. Pour ce qui est des autos, on s'adresse à notre concessionnaire, évidemment, pour la garantie du fabricant. Donc, on a réglé ou presque la question de la garantie des fabricants. Passons au gros morceau qu'on appelait dans le temps garantie prolongée. Et peut-être qu'ils ont changé le nom parce que c'était dénigré par beaucoup de journalistes. Ils se sont mis à appeler ça des contrats de service, mais c'est du pareil au même. La chose qui frappe le plus, et je vais te laisser l'expliquer parce que c'était assez le fun à expliquer, c'est qu'il y a comme une contradiction fondamentale quand arrive le moment pour le vendeur de nous vendre justement la garantie prolongée.
Ben oui, ben c'est exactement ça. Puis il y a quelque chose d'un petit peu illogique parce qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui va magasiner un frigo. Alors, on va se rendre chez un commerçant qui nous vend des frigos. On va nous vendre un paquet de belles qualités du nouveau frigo. Il est merveilleux, il est génial. Et au moment de payer la facture, ben là, on va leur dire: Ah, mais tu sais, madame, ton frigo pourrait peut-être lâcher d'ici un an, puis ce sera peut-être pas garanti.
C'est quand même assez rigolo, il faut dire. Ben, c'est rigolo, mais ça ne l'est pas, là, mais sur le coup, quand tu l'expliques, là, c'est effectivement, là, non, l'instant d'avant, c'était merveilleux, puis l'instant d'après, oups-là, ça pourrait vous causer des ennuis, là, monsieur et madame.
Exactement. Donc, on essaie de nous vendre une garantie supplémentaire un petit peu pour nous acheter une tranquillité d'esprit, dans le fond.
Mais c'est pas donné, ces garanties-là. Hein? Ça peut coûter assez cher. Il y a même une étude, je pense, Sylvie, là, que tu as vue, qui a été faite là-dessus.
Oui, bien, il y a l'Union des consommateurs, qui est un autre organisme, là, qui a fait une étude là-dessus il y a quelques années. Et puis, ils avaient trouvé que le prix des garanties prolongées oscillait à peu près entre 10 et 25 % du prix d'achat de l'item en question. Donc, c'est quand même une bonne facture qui se rajoute là.
Sylvie, la garantie peut être offerte, prenons l'exemple d'une voiture, par le fabricant ou par une compagnie extérieure. Toi, si jamais quelqu'un veut le faire, là, qu'est-ce que tu conseilles?
Bien, première des choses, de bien lire le contrat, parce que ces garanties supplémentaires-là peuvent aussi avoir des exclusions. Donc, ça garantit peut-être pas complètement tout. Donc, on paye, mais il faut savoir pourquoi on paye. Il faut voir aussi à qui on doit s'adresser pour l'honorer, parce que est-ce que c'est le fabricant ou est-ce que c'est une compagnie qui est à l'autre bout du monde où on n'aura pas un service facilement en français? Donc, c'est le genre de choses qu'on veut vouloir vérifier, parce que justement, on veut s'assurer qu'en cas de pépin, on va pouvoir l'exécuter, cette garantie-là. Donc, il faut prendre le temps quand même de bien lire ces contrats-là, quitte à poser des questions aux commerçants aussi. Il faut se rappeler qu'un commerçant est quand même tenu de ce qu'il dit. Donc, si on n'est pas trop sûr de comprendre quelque chose, ben, pourquoi pas poser la question au commerçant et dire ben, « Peux-tu juste me le noter sur le petit bout de papier pour s'assurer qu'on s'entende bien sur la même chose? »
Là, on va passer à un gros morceau, et un morceau qui est extrêmement important. Parce qu'on parle de garantie depuis tantôt, on a toujours l'impression que la garantie, c'est seulement la garantie du fabricant ou celle du commerçant, si jamais ils en offrent. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans la loi québécoise, qui s'appelle la loi sur la protection du consommateur, il y a une garantie qui s'appelle la garantie légale. Si tu permets, je vais la lire, Sylvie, je vais te demander de l'expliquer. Article 37. Bon, c'est écrit en martien, mais essayons d'être attentifs. Article 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Article 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat, c'est la vente, là. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Peux-tu nous traduire ça du martien au français?
Bon, je vous dirais que c'est un peu l'équivalent, moi, c'est ce que j'appelle la règle du gros bon sens. Ce qu'on dit dans le fond, c'est que d'une part, ce qu'on achète doit pouvoir servir, doit être fonctionnel, d'une part des choses, et doit avoir une durée de vie raisonnable qui correspond au bien et à l'utilisation qu'on en fait. Alors, je te donne un exemple. Si tu achètes une montre au magasin du dollar, tu n'auras pas la même attente en matière de durabilité que si tu payes 300 $ pour une autre montre chez un bijoutier. Donc, c'est là qu'on voit qu'ici, le prix va avoir un impact sur la durée du bien. Maintenant, on prend cette montre-là, puis on la lance à grands bras sur un mur de béton. On s'entend que ce n'est pas un usage normal, donc ça ne ferait pas partie non plus de la garantie. Donc, c'est vraiment une question de gros bon sens. Maintenant, le problème, c'est que dans la pratique, ben, c'est pas toujours les gens n'ont pas toujours le gros bon sens à la bonne place.
Dans le fond, là, ce que ça dit, cette loi-là, là, c'est assez simple. Ça dit le consommateur doit en avoir pour son argent. Le commerçant tue 300 $ pour la montre, bien, ça serait anormal que la montre cesse de fonctionner après un an et demi, deux ans, au poignet du gars qui ne l'a pas lancé sur le mur de béton dont tu parlais tout à l'heure. Mais quand tu vas chez le commerçant et qu'il insiste pour te vendre sa garantie prolongée, il va te dire « Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que ta garantie légale, là, il faut que tu poursuives pour l'avoir. »
Ça n'a aucun sens, parce que dans le fond, quand un commerçant nous dit ça, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans le fond, moi, la loi, je ne la respecterai pas. Il va falloir que tu me poursuives pour me forcer à respecter la loi. Moi, je me pose la question dans ce temps-là, ben, si on me dit qu'il doit poursuivre pour respecter que je dois le poursuivre pour respecter la loi, ben, qu'est-ce qu'il me dit qu'il va aussi respecter le contrat qu'il me propose de payer à grands frais? il ne respecte pas la loi, mais il respecterait son contrat. Il y a un petit quelque chose là-dedans qui vient me déranger là-dedans.
Oui, c'est vrai que le commerçant ne respecte pas la loi s'il dit ben, il faut que tu poursuives. Mais le problème, c'est que oui, il faut que tu poursuives. Donc, ça met toute la responsabilité sur les épaules du consommateur.
Oui, c'est effectivement le problème. Et là-dessus, quand même, il y a les décisions du tribunal, mais font en sorte que, quand même, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment qu'on démontre que l'article n'a pas eu une durée raisonnable, habituellement, il y a une espèce de fardeau de preuve qui va se transporter sur les bras du commerçant. Mais ça reste que, effectivement, c'est un peu plus de trouble. Ce qu'il faut quand même mentionner, puis on l'a oublié de le faire aussi, c'est qu'avant même de nous vendre, de nous proposer une garantie prolongée, le commerçant a l'obligation de nous informer de l'existence de la garantie légale. Il doit le faire verbalement et non seulement verbalement, mais il doit même nous donner un petit papier qui nous informe de l'existence de la garantie légale. Moi, il m'est déjà arrivé de me faire offrir une garantie pour, je pense que c'était un lave-vaisselle, où on me disait, ben la garantie prolongée, elle est remboursable. En d'autres mots, si tu ne l'utilises pas, on va te rembourser. Ce qu'ils ont oublié de me dire, c'est ce que j'ai compris de la part de plusieurs consommateurs, c'est que non seulement ce remboursement-là, il faut le demander, il n'est pas automatique, et en plus de ça, c'est non seulement faut le demander, mais en plus, c'est pas remboursé en argent, c'est remboursé en coupons qu'on peut utiliser chez le même commerçant. Tout ça pour nous faire payer pour une garantie supplémentaire, alors qu'il y a déjà une garantie qui est déjà prévue dans la loi puis qui est déjà comprise dans l'article que j'achèterai.
Écoute, mon réalisateur se magasinait une garantie pour son véhicule qui arrive à la fin de la garantie du fabricant. Sa voiture est rendue à 80 000 km. Là, on lui offre une garantie prolongée de 2 ans ou 40 000 km. Et il m'a dit que ça lui coûterait 4 100 $ pour 2 ans. OK? Et on lui donne des exemples. Il a demandé la garantie, on lui a renvoyé un fascicule pour le convaincre. Là. Et on lui dit dans les exemples, coût typique de réparation, remplacement du moteur, 11 000 $, remplacement de la boîte de vitesse, 6 000 $. T'es peurant, cette affaire-là. Sauf que si la voiture de Roger, le moteur de Roger saute à 81 000 km, il n'est plus sa garantie du fabricant. Et si, est-ce que Roger peut aller réclamer quelque chose en vertu de la garantie légale à un tribunal?
Ben, en fait, c'est justement ça. Le jeu de ces garanties-là, c'est vraiment d'aller toucher l'insécurité des consommateurs par rapport aux produits. Par contre, moi, j'ai de la difficulté à me figurer un tribunal qui accepterait qu'un véhicule de 80 000 km doive faire objet d'un remplacement de moteur, là, à moins qu'on ait vraiment été dans une utilisation abusif du véhicule, qui à ce moment-là, effectivement, ce ne serait pas couvert par la garantie. Donc, si ton ami Roger a tendance à faire beaucoup de courses automobiles avec son véhicule, ce serait peut-être autre chose. Mais en temps normal, dans le cadre d'une utilisation normale, un moteur, ça dure quand même plus que 81 000 km. Là.
Donc, il est probable qu'un juge dirait rembourser à Roger la valeur du moteur qui est obligé de faire changer, rembourser lui le 11 000 $. Parce qu'écoute, Georgini nous disait qu'une voiture dure à peu près 15 ans. 15 ans, ça peut entre 250 et 300 000 km, puis ça devrait être normalement avec le même moteur. On se comprend. Les voitures sont mieux construites aujourd'hui qu'avant. Alors, moteur qui saute à 81 000, 82 000, les mêmes 90 000 et 100 000 km, c'est anormal.
C'est anormal, puis en même temps, c'est aussi très, très rare. Donc, on met un exemple qui est vraiment énorme, alors que pour la très, très, très grande majorité des gens, il n'y aura pas de problème. Là, on sait que normalement, un moteur, ça dure plus longtemps que ça. À moins qu'on soit tombé sur un citron, normalement, on n'a pas à faire ce genre de réparation-là sur un véhicule. Alors vraiment, on joue sur l'insécurité du consommateur pour essayer d'en soutirer un peu plus d'argent de ses poches.
Donc, on va suggérer à Roger de s'épargner 4 100 $. Roger fait dire merci, j'en suis convaincu. Sylvie, il y a un truc important, puis on en parle. Là. Je relis mon article 38. Pendant une durée raisonnable, bon, le truc que tu achètes, voiture, électro, peu importe, doit servir pour une durée raisonnable. Comment un consommateur qui se pose les questions qu'on se pose maintenant peut évaluer ce que c'est qu'une durée raisonnable pour le produit qu'il a acheté?
Bien, c'est là qui est vraiment la difficulté pour monsieur, madame, tout le monde, parce que ça dure combien de temps un frigo ou un téléviseur? Ce qui est certain, c'est que moi, je ne connais pas personne qui s'achète un frigo avec dans l'idée qu'il va le remplacer l'année prochaine. Donc, c'est clair que la garantie d'un an, on est loin d'être dans la durée raisonnable. Maintenant, pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça peut représenter, bien, il existe des outils, entre autres sur le site Internet de l'Office de la protection du consommateur. Il y a un onglet où on peut aller voir, il y a vraiment, on a répertorié des jugements qui ont été rendus par des juges de la Cour des petites créances, par exemple. Et un consommateur pourrait aller voir sur ce site-là, aller regarder des jugements qui ont déjà été rendus. Comme ça, bien, ça donne un peu, c'est sûr que c'est du cas par cas, mais ça donne un ordre de grandeur. Comme ça, bien, on peut voir bien, dans d'autres situations combien de temps on a donné pour un article particulier.
Puis on peut se servir de notre tête aussi, on le sait à peu près. Tu sais, je veux dire, un téléviseur payé, mettons, je ne sais pas moi, 1 000 ou 800 $ c'est anormal qu'il brise au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais, ça devrait durer 7-8 ans, un téléviseur, minimalement. C'est sûr que si tu le payes d'occasion 100 $ tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il dure 7-8 ans. Bon, maintenant, j'ai mon produit, il a brisé après la garantie du fabricant. On ne veut rien savoir du côté du commerçant et du fabricant pour réparer ou me dédommager. Comment j'active la garantie légale? Comment je fais?
Bien, la première étape, ça va être justement de communiquer avec le commerçant et ou le fabricant, parce qu'il faut savoir que la garantie légale, ça s'applique aux deux. Donc, on a le choix, on peut s'adresser soit à l'un, soit à l'autre. Donc, généralement, on va essayer avec le service à la clientèle. Si les deux nous envoient balader, ben à ce moment-là, l'étape suivante, ça va être d'envoyer ce qu'on appelle une lettre de mise en demeure. Donc,
et ça, c'est vital, Sylvie, hein, parce qu'il y a un jugement de la Cour suprême qui dit que sans ça, tu n'as plus de cause. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Non, effectivement, c'est vraiment obligatoire, la mise en demeure. L'idée de la mise en demeure, c'est qu'on veut donner une chance au coureur de régler le problème. Il faut démontrer que effectivement le commerçant et ou le fabricant sont au courant du problème et ont refusé ou négligé de le régler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vital. Maintenant, on parle de mise en demeure. Là, les gens peuvent partir en panique en disant « ben là, moi, je ne suis pas avocat, je ne sais pas comment rédiger ça ». Là-dessus, je pense qu'on peut quand même rassurer les gens. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une licence ou un bac en droit pour pouvoir rédiger cette lettre-là.
Ben, écoute, il y a des aides. Hein? D'abord, on peut vous appeler vous. On peut quasiment parler à toi. Je ne sais pas si c'est toi qui réponds à ces appels-là, mais on peut appeler Option consommateur. Il y a les centres de justice de proximité qui existent. Il y a l'Office de la protection du consommateur. Tu m'as envoyé, quand on se parlait de ça tous les deux, le fascicule du jeune barreau. Écoute, c'est 36 pages. C'est très bien fait, mais c'est sous forme de questions-réponses. Donc, tu n'as pas besoin de lire les 36 pages. Tu vas aux questions qui t'intéressent, puis tu lis ça. Il y a le site aussi du ministère de la Justice Petite créance qui sert à t'expliquer. Bref, on peut nous expliquer comment ça marche.
Absolument. Mais l'idée de cette lettre-là, dans le fond, habituellement, ce qu'on va y écrire, ça va être une brève description du problème. C'est quoi la solution qu'on exige du commerçant? On donne au commerçant un délai raisonnable. Souvent, les gens vont donner une dizaine de jours là, pour permettre au commerçant de s'exécuter. Puis, on dit qu'à défaut de quoi, on va instituer les procédures judiciaires appropriées. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. C'est pas nécessaire d'engager un avocat pour payer pour faire ça. Il y a des gens qui vont le faire eux-mêmes, mais c'est tout à fait correct. Là. Ici, on n'a pas tout à fait les termes précis. Là. Les juges sont quand même conciliants par rapport à ça. Là.
Il y a une chose très importante à dire, là. Il faut qu'on fasse la démarche judiciaire à l'intérieur de 3 ans, parce que la loi dit que tu dois le faire à l'intérieur de 3 ans à partir de la connaissance que tu as du problème de ton appareil, ta voiture, etc.
Exactement. Donc, ça, c'est le moment pour ouvrir le dossier à la Cour. Donc, idéalement, on n'attendra pas 3 ans avant de faire les procédures quand il y a un problème, de toute façon, idéalement.
Tu m'amènes à quelque chose en me disant ça. J'ai un congélo. J'ai 5 enfants, admettons. 6 enfants, tiens, mettons-en un de plus, pourquoi pas. J'ai 6 enfants, j'ai un congélo, puis j'ai pour à peu près entre 500 et 1000 $ de viande et de tout ce que tu veux là-dedans. Il brise. Je ne peux pas attendre 2 semaines. Je fais quoi?
Bien, le délai de 10 jours que je mentionnais, c'est un délai qui est général, mais ce qu'on donne habituellement, c'est un délai raisonnable. Alors, dans un cas comme ça, il n'y a rien qui empêcherait de donner un délai beaucoup plus court aux commerçants, parce que là, on est dans une situation où on est urgent, où c'est urgent, puis on veut essayer le plus possible de limiter nos dommages de notre côté. De la même façon, si on sort complètement du droit de la consommation, mais supposons que quelqu'un me harcèle, je ne vais pas envoyer une mise en demeure en disant « arrêtez de me harceler dans 2 semaines ». Je veux dire « arrêtez de me harceler ». Tout de suite. Donc, là encore, on est dans la question du gros bon sens.
Bon, il y a une question importante aussi. quelle compagnie poursuivre? Parce que les compagnies, évidemment, je ne sais pas moi, la compagnie qui fabrique un réfrigérateur peut avoir plusieurs, en fait, ça peut être plusieurs compagnies, là, ce n'est pas une seule compagnie, puis il faut bien identifier l'entreprise que je dois poursuivre. Qui peut m'aider à définir ça, à trouver ça?
Bien, ça, les gens peuvent communiquer soit avec Options consommateur, soit avec l'Office de la protection du consommateur qui peuvent à ce moment-là donner des guides. L'idée habituellement, c'est qu'on va poursuivre l'entreprise, on peut poursuivre du moins l'entreprise qui nous a vendu l'article en question. Et généralement, ça va être la marque de commerce qu'on va voir sur l'article. Et pour pouvoir trouver l'adresse, bien, il existe des registres qui sont publics. Ça peut être le registraire des entreprises qu'on peut voir sur Internet. Mais on peut aussi aller vérifier le profil du commerçant sur le site web de l'Office de la protection du consommateur. Habituellement, il va y avoir une adresse aussi qui va figurer là. Donc, ça peut être des bonnes pistes là, pour savoir où envoyer la lettre.
Puis, écoute, je vais te dire, parce que j'ai une cause, moi, aux petites créances, j'en parlerai pas évidemment, mais je sais que quand tu vas sur le site des petites créances, on te fait une offre à aide du greffier, point d'interrogation. Donc, tu peux parler à un greffier des petites créances qui peut te donner un petit coup de pouce pour faire. Je vais juste donner, si tu permets, Sylvie, les délais, parce que je viens de les vérifier il y a quelques jours. Alors, les délais pour la tenue de ton audience, si tu fais une démarche aux petites créances, Montréal, c'est 18-24 mois, Québec, 15-16 mois, Laval, 17-18 mois, puis j'ai pris une région, Alma, 11-12 mois. Mais il faut se dire que c'est d'habitude de l'argent en banque, parce que comme on se disait, là, si le moteur de rejet saute à 85 000 km, d'après moi, c'est de l'argent en banque. Ça va y prendre peut-être 18 à 24 mois, mais il va avoir ses sous. C'est important, oui, puis tu me disais quand on en parlait précédemment, Sylvie, tu es avocate évidemment, c'est important de bien monter son dossier. Il ne faut pas s'attendre à ce que le juge fasse la cause pour nous.
Non, absolument. Ça demeure un tribunal. Donc, c'est sûr que, compte tenu qu'on est devant la chambre des petites créances où il n'y a pas d'avocats qui sont admis, le juge ne va pas s'attendre à ce que monsieur, madame, tout le monde connaisse par cœur les articles du Code de procédure civile. Mais quand même, le processus de preuve demeure le même. Le rôle du juge, à ce moment-là, va être un peu un rôle d'assistance. Il va devoir permettre à chacune des parties qui sont devant lui de faire la preuve de leur cause. Donc, il faut quand même bien préparer son dossier. Il faut avoir en main, si on a des factures, si on a des photos, si on a des témoins, il faut pouvoir présenter toutes ces preuves-là. Dans le fond, on joue un petit peu à l'avocat à ce moment-là.
OK. Puis si on prend des photos, il faut que la personne qui a pris la photo soit là, présente le jour de l'audience, je pense.
Absolument. Et là, il faut compter justement le fait qu'il peut y avoir un certain délai entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on est entendu. Donc, il faut s'assurer qu'on va toujours être amis avec ces gens-là.
Maintenant, on peut aller en cours, mais on nous offre aussi la médiation. Est-ce que ça vaut la peine, d'après toi?
Bien, la médiation, c'est quelque chose qui est obligatoire d'envisager de toute façon en fonction des nouvelles règles de procédure. La médiation, c'est un processus qui est habituellement gratuit, là, qui est offert même par la Chambre des petites créances. L'idée de la médiation, c'est d'essayer de voir est-ce que c'est possible de régler le différend sans qu'on ait à passer devant un juge. Pour que ça fonctionne, par contre, bien, il faut qu'on ait deux parties qui sont prêtes à discuter et qui sont prêts à faire des compromis. C'est sûr que si chacun rentre dans la salle en disant « moi, j'ai raison et ce que je veux, c'est ce qui est dans ma procédure, final bâton », bien, dans un cas comme ça, la médiation risque d'être beaucoup moins efficace. Mais si on est prêt à faire un certain compromis, bien, au moins, ça peut avoir comme effet de régler à la satisfaction des gens. Et dans certains cas aussi, il faut se rappeler que ce n'est pas toujours juste une question d'argent. Souvent, quand on a des conflits avec le commerçant, on a vu des situations où ce que les gens veulent aussi, c'est une certaine part de reconnaissance, une certaine part d'excuse de la part du commerçant. Et ça, c'est difficile d'obtenir ça en cours. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir obtenir plutôt quand on discute avec lui.
Bon, maintenant, tu m'as dit l'autre jour, quand on s'en parlait, Sylvie, que l'OPC offrait une plateforme quelconque pour aider à ça, hein?
Absolument. Ça, c'est la plateforme Parle, qui est une plateforme de médiation en ligne. L'idée, c'est d'intervenir avant même l'envoi de la mise en demeure. Donc, des gens qui auraient des problèmes avec un commerçant peuvent communiquer avec l'Office de la protection du consommateur et voir si le commerçant participent à ce processus-là. Et c'est un processus qui est en ligne, qui est confidentiel, qui est quand même supervisé aussi par un avocat ou un notaire médiateur. Et qui peut permettre, dans bien des cas, de régler un différend avant même de l'envoi d'une mise en demeure ou de se retrouver à la cour. Donc, l'idée, c'est que si on est capable de le régler avant, on évite un paquet de délais. Il faut se rappeler aussi qu'une procédure à la cour, même si on se dit qu'on peut gagner et qu'on a des bonnes chances, ça reste quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui est stressant. Et si on est capable de passer et d'avoir satisfaction autrement, je pense que ça peut valoir la peine de l'envisager.
Ouais. Puis tu me disais qu'avec cette plateforme Parle de l'OPC, il y avait quand même un taux de satisfaction élevé. Bon, l'étape suivante, je gagne, j'ai mon jugement, j'ai gagné la cause, sauf que c'est à moi à l'exécuter. Bon. Imaginons que, je ne sais pas moi, je gagne, j'ai mon frigo, il ne marchait plus. Le juge me dit, on doit vous payer, mettons, 800 $ de votre frigo de 1500. Le fabricant ne veut rien savoir. Il faut que je le fasse exécuter moi-même. Il faut que j'engage un huissier. Oh là là! Est-ce que ça va me coûter cher? Comment ça marche? Voyons donc, je ne pensais pas que ça me coûterait de l'argent. J'ai gagné mon procès. Comment ça marche-t-il?
Bien, la première chose à faire, ça va être justement de contacter un huissier qui va pouvoir, à ce moment-là, nous expliquer c'est quoi les différentes avenues. Le huissier va d'abord signifier la procédure, va essayer de négocier avec le commerçant pour qu'il nous rembourse. Mais si ça ne fonctionne pas, bien, on peut avoir carrément procédé à des saisies. Ça peut être des saisies bancaires, ça peut être des saisies de biens qui seront éventuellement vendus aux enchères. Mais il y a une façon, à ce moment-là, de se faire... de se faire rembourser. Maintenant, c'est sûr que l'huissier ne fait pas ça pour nos beaux yeux. Il y a des tarifs qui sont applicables aussi au travail du huissier, mais habituellement, quand il va procéder à la saisie, il va saisir suffisamment de biens pour pouvoir couvrir non seulement la créance, mais également ses honoraires.
OK, donc moi, je n'ai pas à payer parce qu'un huissier, ça coûte de je sais pas, au moins 3, 4, 5, 6, ça peut coûter plusieurs centaines de dollars, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va saisir assez pour se payer et pouvoir... me donner ce que le jugement des petites créances m'aura accordé.
Oui, absolument. Là où ça peut peut-être poser problème, c'est si la partie qu'on a poursuivie devient insolvable ou n'est pas en mesure de rembourser, n'a pas suffisamment de biens pour nous rembourser, ou là, ben, le travail du huissier va falloir qu'on le paye, mais on ne sera pas à ce moment-là remboursé parce qu'il n'y aura rien à saisir si c'est le cas.
Sylvie, c'était très clair, très intéressant. Je te remercie infiniment.
Au plaisir.
Merci beaucoup.
Vous le voyez, les commerçants qui vous vendent des garanties prolongées ou des contrats de service font pas mal de profit avec ça. Mais encore une fois, la loi québécoise vous en donne une garantie, pas mal plus longue que celle du fabricant et gratuite avec ça. Malheureusement, nombre de fabricants et de commerçants font comme si elle n'existait pas. Alors ne vous gênez pas pour dire aux fabricants et aux commerçants qu'ils ne respectent pas cette loi pourtant très claire. Écrivez à leur service à la clientèle et ne soyez pas timide, hein? Demandez à monter dans la hiérarchie. C'est votre droit. Vous avez d'autres questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options consommateurs sur Facebook ou Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, on se retrouve dans 2 semaines.